Chapitre 10. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant qu'Agatha rencontre les avocats de Charles pour négocier le contrat. L'agence fut inondée de nouvelles affaires, ce qui relégua cette histoire et celle des meurtres au second plan. Rien d'exceptionnel cependant. Le cocktail habituel de divorces, d'animaux et d'enfants perdus, d'espionnage industriel, de vol à l'étalage. Finalement, l'équipe sortit la tête de l'eau grâce à Patrick. Il fit appel à deux policiers qui officiaient comme détectives privés sur leur temps libre. Ils résolurent bon nombre de cas en un temps record. Quand Agatha put enfin souffler, elle téléphona à Gustave pour qu'il arrange un rendez-vous. La rencontre fut fixée au lendemain à 15h. Agatha remercia les deux policiers pour leur bon service et, après les avoir gratifiés d'une rallonge, demanda « Vous auriez un tuyau pour m'aider à y voir plus clair dans cette série de meurtres à Sompton Harcourt ?» Le plus âgé des deux fronça les sourcils sous l'effet de la réflexion. Il y a toujours une question que l'on oublie de poser, Agatha. Celle qui permet de résoudre toute l'affaire. Essayez de réfléchir. La question. Le lendemain, quand Agatha prit la route pour son entrevue avec les avocats de Charles, une certaine irritation montait déjà en elle. Ne lui avait-elle pas déjà consacré assez de temps et d'argent comme ça? Alors qu'elle remontait la longue allée qui menait à son horrible manoir, elle ne put s'empêcher de repenser à leur première rencontre. Elle était si impressionnée qu'elle avait mis une éternité à choisir sa tenue et redoutait que son vieil accent de Birmingham ne s'invite dans son anglais désormais soigneusement articulé. Quand Gustave la fit entrer dans la bibliothèque, elle aperçut deux avocats, ou du moins deux hommes qui en avaient tout l'air, et reconnut James Blessop, le mandataire de son ami. Elle se tourna vers le domestique. « Où est Charles ?»«
Sir Charles est parti ce matin, » annonça Blessop. « Il a déclaré avoir une terrible gueule de bois et un impérieux besoin de prendre l'air. »«
Dans ce cas, vous direz à Sir Charles qu'il se verra facturer la matinée que je viens de perdre à venir jusqu'ici, ainsi que tous les frais que j'ai eus en Espagne. »«
Non mais quelle toupet !»
Gustave la supplia d'attendre au moins le temps qu'ils essaient de contacter Charles. En vain. Agatha sortit d'un pas décidé et conduisit jusqu'à Oxford sans s'arrêter. Qu'il aille au diable! Quelle était cette fichue question qu'elle n'avait pas posée? Bon, d'accord, elle n'avait pas demandé à Laura si elle avait tué sa sœur. Mais pourquoi l'aurait-elle fait? Laura Darby n'avait pas assez de force pour maîtriser Margaret, et il était peu probable qu'elle ait apprivoisé et caché un assassin, n'est-ce pas? Agatha essuya une larme sur sa joue. Elle avait espéré que Charles lui serait suffisamment reconnaissant pour être présent. Était-ce trop demandé? Mais son sens inné de l'autodérision vint à son secours. La vie n'était pas un roman d'amour. Qu'espérait-elle? Que l'amour d'une femme respectable le changerait? Qu'elle-même pouvait entrer dans la catégorie des femmes dites respectables? Il fallait se ressaisir, oublier Charles. Quelque part, dans le vaste monde, l'attendait un homme fait pour elle. L'amour n'était pas mort. Il hibernait. Voilà tout. Le cœur plus léger, elle se gara finalement devant chez Laura Darby et sonna. Elle attendit. Attendit. Dans la rue, une canette de bière vide roula sur l'asphalte, poursuivie par des feuilles mortes qui tourbillonnaient. Soudain, elle reconnut la voiture de Laura. Et si Laura n'était pas une meurtrière, mais une victime du meurtrier? Et si elle gisait dans une mare de sang sur le sol? Agatha actionna la poignée de la porte. Fermée. Deux vitraux composaient sa partie supérieure. Elle retourna à sa voiture, prit un démonte-pneu dans le coffre, avec lequel elle cassa un carreau. Elle passa ensuite la main à l'intérieur avec précaution et déverrouilla la porte. Elle parcourut le rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine et bureau, avant de monter au premier. Salle de bain, chambre d'amis, puis une troisième porte. Agatha la poussa et lâcha un cri d'horreur. Laura était étendue sur son lit tout habillée, les mains croisées sur la poitrine. Son visage était aussi pâle qu'un masque mortuaire. Agatha descendit les escaliers d'un pas chancelant et, une fois dehors, appela la police. Les 5 minutes qui s'écoulèrent jusqu'à l'arrivée de 2 agents lui parurent une éternité. Agatha bafouilla que Laura était morte. « Attendez ici !» ordonna l'un d'entre eux. Frissonnante, elle serra ses bras contre sa poitrine. Puis elle entendit un cri en provenance de l'étage. Quelle horreur! L'instant d'après, un des agents sortit, regardant au passage le vitrail brisé.
Miss Darby est tout ce qu'il y a de plus vivante. Elle se faisait un masque. Elle a regardé par la fenêtre à ma demande il y a un instant et a tout de suite dit « Tiens, voilà l'inspecteur Clouseau !» et d'ajouter que vous êtes un genre de détective privé dénommé Agatha Raisin. Elle ne portera pas plainte contre vous, mais elle vous enverra la facture pour les réparations de la porte et du vitrail. Maintenant, vous allez devoir m'accompagner au poste, je dois prendre votre déposition. » Quand elle rentra enfin à Carsley, Agatha avait eu le temps de ressasser sa colère contre Charles. Aussi, lorsqu'elle le trouva endormi sur son canapé, elle laissa libre cours à sa fureur. Elle fonça dans la cuisine, prit une bouteille d'eau minérale dans le réfrigérateur et retourna au salon pour lui vider le contenu sur la tête. Il se redressa en bredouillant. Il sortit un mouchoir de sa poche, se sécha le visage soigneusement et tamponna ses vêtements. « Garce ! Espèce de salaud ! Égocentrique de mes deux !» hurla Agatha. « Je t'ai apporté quelque chose !» Charles se pencha par-dessus la coudoir du canapé et souleva un magnum de champagne décoré d'un nœud en soie rose. « Mes remerciements les plus sincères, Aggy. J'ai tout arrangé avec mon comptable pour tes frais en Espagne, alors envoie-lui ta facture. Arrête de me crier dessus. Et attrape-nous des verres !»«
Pourquoi n'étais-tu pas au rendez-vous ce matin ?»«
Je suis sorti pour acheter le champagne et je suis tombé sur une vieille connaissance du lycée. Et on a parlé, parlé... » « Serre-nous, Aggy.
Fais-le toi-même. En plus de m'être complètement discréditée, je suis lasse. Je vais allumer la cheminée. »
La femme de ménage avait déjà préparé le feu. Aussi, Agatha n'eut qu'à craquer une allumette et à s'accroupir pour regarder flamber le petit bois. Elle s'installa ensuite dans un fauteuil et retira ses chaussures. Charles lui tendit une coupe et s'assit sur le sol tout près d'elle.
« Je t'écoute. »
Agatha lui raconta sa mésaventure chez Laura Darby et Charles éclata de rire.
« Ravi que tu trouves ça drôle ?»« Ça l'est ! Bien, c'est quoi ta brillante idée, ô reine des relations publiques ?»«
Si tu crois que je vais te le dire ?» marmonna Agatha.
« Allez, reprends une petite coupe et reprenons la journée à zéro. »«
Ton grenier, tu as Cater Thompson dans ton grenier ?»«
Tu as bien des chauves-souris, toi !»
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Cater Thompson, l'homme qui vivait dans ton manoir au temps où c'était encore une bâtisse Tudor. Il était membre du Hellfire Club et se livrait à toutes sortes de mauvais tours. L'idée, c'est d'organiser un gala de bienfaisance aux chandelles, une dégustation de fromage et de vin pour la Croix-Rouge, par exemple.
La Croix-Rouge ? J'organise déjà une soirée pour eux tous les ans. Jusque-là, rien de nouveau.
Dans la salle de bal, n'est-ce pas ?
En effet.
Et il y a toujours cette tribune des musiciens pseudo-médiévales ?
Et alors ?
Le portrait du vieux dépravé, tu le mets bien en vue dans la salle de bal. Au-dessus, une lumière électrique. Pour le reste, tu mets des bougies. Pas trop. On a besoin qu'il y ait plein d'ombre. Ensuite, il te faut une comédienne. T'en connais une ?
Oui, Bethany Cross, une fille cantonnée au petit rôle.
Bon, quelqu'un comme ça. Tu te procures un hologramme de Cater. Quand elle l'aperçoit, elle le montre du doigt, hurle. Au début, c'est juste une apparition transparente et vacillante. Tu auras pris soin d'inviter la presse, bien sûr. Tu attends que la nouvelle se répande dans la région et ensuite tu annonces que le manoir se visite pour 10 livres par tête de pipe. Elle réfléchit un instant puis ajouta.
Ah, et aussi tu fais installer une ventilation quelque part. Comme ça, les gens jureront que la pièce est devenue plus froide et que tout à coup, ils ont entendu la comédienne crier. Si ça prend, on ouvre une boutique de souvenirs. Cartes postales de Cater, tasses, torchons. Mais je veux 4%, pas moins.
Rapace.
Radin !
Ton verre est vide, Aggy.
Dis-moi, Charles, c'est quoi cette question que je n'ai pas posée ?
Veux-tu m'épouser ?
Arrête de faire l'idiot. Les meurtres. D'après un policier, il y a une question cruciale que l'on oublie toujours de poser.
Je vais chercher du papier et on va réfléchir. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui accepte de travailler pour moi d'arrache-pied pour 1%.
4. Et n'essaie pas de me rouler.
Je m'incline. Tiens, papier stylo. Commençons par Sir Edward.
Il est peut-être fou. Il faut lui demander ce qui lui est arrivé dans la jungle.
Possible. Molly ?
Agatha se servit une autre coupe de champagne.
Je sais. Vous tuez les gens en plus d'être une traînée ?
Trop direct.
Laura Darby. Avez-vous assassiné votre sœur ?
Ça, c'est bien. Risqué, non. Elle est capable de m'intenter un procès.
Le garagiste. Margaret n'était pas votre genre. Vous la fréquentiez probablement pour son argent. Quand elle vous a dit qu'elle ne vous laisserait pas un sou, vous êtes entré dans une rage folle et vous l'avez tuée, c'est ça?
J'ai l'impression qu'on fait fausse route. Peut-être que ce policier parlait d'une question que je ne me suis pas posée à moi-même.
On reprendra demain, la nuit porte conseil. Si je dormais tout contre toi, je pourrais bien avoir un coup de génie.
Un coup tout court, oui, rétorqua Agatha en réprimant une furieuse envie d'être enlacée. Agatha fut réveillée par le bruit de l'aspirateur. Bon sang, elle avait oublié de mettre le réveil. En plus, c'était samedi. D'ordinaire, ce jour-là, elle passait une petite heure avec Tony à l'agence pour faire le point sur deux ou trois affaires. L'aspirateur se tut. Les voix de Doris et de Charles lui parvinrent sans qu'elle puisse distinguer ce qu'ils disaient. Elle se leva, prit une douche, puis s'habilla. Une fois dans la cuisine, elle se rendit compte qu'elle n'était pas maquillée. Elle chercha ce qu'elle appelait sa trousse de secours dans un tiroir et commença à se farder.
« Pas très hygiénique !» commenta Charles. « Il vole ton blush. Il y en a sur mon croissant maintenant !»«
Tu n'as qu'à souffler dessus. Il reste un croissant pour moi ?»«
Dans le sachet, là !»«
Merci !»«
On pourrait s'accorder un peu de bon temps aujourd'hui. »«
Je n'ai pas la tête à ça, mon cher. »«
Comme si c'était nécessaire. Quelle vieille bique tu fais ? Je plaisante !»
Laisse cette cafetière sur la table. Bon, j'ai appelé Gustave hier soir pour lui parler de ton idée. Il a trouvé un magicien.
Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait aussi se servir de lui pour effrayer les sorcières de Sumpton Harcourt. Elles finiront par cracher ce qu'elles savent sur les meurtres et en plus, tu auras ta revanche.
Tu n'as rien contre, je suppose.
Elles n'ont pas été inculpées pour le coup qu'elles t'ont fait, si?
Non, faute de preuves. Pas mal ton idée de leur faire peur. Ça vaut la peine d'essayer.
Ils ne devraient pas tarder.
As-tu songé que si tu te mariais un jour, ta chère et tendre pourrait ne pas supporter que Gustave puisse surgir de nulle part à tout moment? La sonnette retentit. Charles alla ouvrir et revint avec Gustave. Et ce magicien, il est où? Demanda Agatha.
En route. Il s'appelle Jock.
Ça ne fait pas très magicien comme nom.
Il s'est fait connaître comme le grand mage, mais les spectacles de cabaret n'ayant plus la cote sur le continent, ça l'oblige à prendre d'autres boulots. Mrs. Raisin, vous avez du rouge à lèvres sur la joue.
Agatha laissa échapper un juron et décida de monter dans sa chambre pour se remaquiller intégralement. Après tout, le fameux Jock était peut-être bel homme. Elle s'installa devant sa vieille coiffeuse de style victorien. Elle avait arrêté de s'infliger son reflet dans le miroir grossissant de la salle de bain, trop déprimant, et se regarda dans la glace. Un visage blanc aux traits déformés se fendit d'un sourire narquois. Agatha poussa un long cri d'effroi. Charles monta les escaliers 4 à 4 et ouvrit la porte. Elle se jeta dans ses bras en bredouillant à propos du miroir. Se dégageant de son étreinte, il y jeta un coup d'œil et n'y vit que son reflet. Il regarda par-dessus le miroir et se retrouva nez à nez avec un homme de petite taille au visage terrifiant.
« Je peux vous être d'une quelconque utilité ?» demanda Gustave, qui était monté lui aussi. « Appelez la police !» cria Charles. « C'est Jock ! Il voulait montrer tout son talent à Mrs. Raisin !»« J'aurais pu faire une attaque !»
hurla Agatha.
« Alors vous et votre cher Jock, vous pouvez aller vous... »« Attends, Aggy !» dit Charles. « S'il t'a fait peur, imagine un peu l'effet qu'il pourrait faire à deux sorcières dégénérées !»
Agatha regarda derrière la coiffeuse.
« Je peux sortir maintenant ?»
fit une voix plaintive.
« Évidemment, mais ne vous avisez plus jamais de me flanquer la trouille !»
Jock était un homme tout petit et très fin.
« Bon, comment avez-vous fait votre coup ?» demanda Agatha. « Charles a laissé la porte ouverte quand il a fait entrer Gustave. Je suis montée rapidement. Quand j'ai vu le miroir, j'ai pensé à ce tour que j'avais déjà fait. Je l'ai enlevé, voilà tout. »
Agatha lança un regard furieux à Charles.
« Appeler la police ? Tu t'es bien moqué de moi ? Tu étais dans la combine ? Tout ce que je veux, moi, c'est en finir avec cette affaire et... »
Sur quoi, elle éclata en sanglots.
« Ce n'est pas en chouinant comme une gosse que tu vas y arriver !»
dit Charles d'un ton sec.
« Reprends-toi ! »
Elle lui colla son poing dans le nez, lui arrachant un cri de douleur. Tous quatre descendirent dans la cuisine. Entre Agatha qui affichait une mine plus renfrognée que jamais et Charles qui maugréait en se tenant le nez, le spectacle était désolant. Gustave entreprit de servir un café agrémenté de brandy, tandis que Jock se préparait mentalement à doubler ses tarifs. Le café arrangé faisant son œuvre, Agatha se mit à réfléchir. Si le tour de Jock l'avait à ce point ébranlé, quel effet ferait-il à deux sorcières crédules ?
« Bon, je vous engage, » dit-elle de mauvaise grâce. « Vous pouvez compter sur le cachet de base auquel j'ajouterai un bonus si vous leur faites la peur de leur vie. »
Elle ouvrit son ordinateur portable et fit lire à Jock ses notes sur le duo mère-fille qui tenait le café de Sumpton Harcourt.
Elles s'appellent Josie et Tracy Fawkes, même orthographe que Guy Fawkes. Elles ont déjà été inculpées pour culture illégale de cannabis. La mère de Josie faisait partie des sorcières humiliées dans le Picture Post dans les années 1950. D'après ce qu'on sait, leur sabbat compte 4 sorcières. Elles ont toutes été arrêtées quand j'ai été attaquée. Quand comptez-vous passer à l'action ?
Tout de suite. Il faut que je fasse des repérages dans le café et là où elles vivent.
Phil Marshall, un de mes détectives, a pris une série de photos, dit Agatha en ouvrant un dossier informatique.
Jock les passa en revue, prit quelques notes, puis signa un document précisant l'arrangement concernant sa rémunération, lequel fut certifié par Charles. Jock monta à la salle de bain pour se débarrasser du maquillage de scène blanc cadavre qu'il avait utilisé pour faire peur à Agatha. Cette dernière, inquiète, se mit à faire les 100 pas dans sa cuisine.
Et si l'une d'entre elles faisait un arrêt cardiaque ? Je ne les porte pas dans mon cœur, mais si elles sont innocentes, je ne veux pas voir leur mort sur la conscience.
Pendant ce temps, Gustave l'observait discrètement. Il n'avait certes aucune envie de voir son maître épouser une bonne femme telle qu'Agatha. Il s'était d'ailleurs assuré par le passé que cela ne se produise pas. Mais il y avait assurément quelque chose entre ces deux-là. Tout à l'heure, tandis qu'il regardait l'écran d'ordinateur par-dessus l'épaule d'Agatha, Charles avait déposé un petit baiser sur sa joue et elle l'avait regardé en souriant.
« À chaque jour suffit sa peine, » dit Gustave pour lui-même.
« Quelle sagesse, Gustave ! Mais pourquoi donc citez-vous la Bible ?»«
Je pensais à ces sorcières, rien de plus, » répondit-il tout en craignant intérieurement d'avoir bientôt à intervenir dans la relation entre son patron et Agatha.
« Et dis-moi, » reprit Charles, « il y a quelque chose qui me tracasse. Ce produit qui t'a assommé, tu sais ce que c'était ?»«
C'était du GBL, un solvant qu'on utilise pour nettoyer les jantes des voitures, mais dans l'organisme, il se transforme en GHB. Je crois que le produit a été retiré de la vente. »«
Le GHB ? C'est la drogue du violeur. On peut en mourir si on en absorbe en trop grande quantité. » »« J'ai du mal à comprendre. » Pourquoi elles n'ont pas utilisé une de leurs drogues à base de plantes ? Elles auraient aussi pu te mettre un coup sur la tête. Margaret Darby a été étranglée et ce policier a été asphyxié après avoir été assommé. Pour moi, les sorcières n'ont pas grand-chose à voir avec tout ça.
Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Et tu ne l'étais pas non plus jusqu'à présent. C'est toi, d'ailleurs, qui as évoqué les sorcières au départ.
Josie et Tracy Fawkes fermèrent le rideau métallique de l'épicerie café et se réfugièrent à l'intérieur frissonnante.
« Le prochain que j'entends parler de réchauffement climatique, je lui jette un sort !» grommela Tracy.
Sa mère servit 2 verres de Porto.
« Ah, la tienne, ma grande. Tu crois pas qu'on aurait dû lui en remettre une couche à la détective ?»« Laisse tomber. Ils nous en ont fait trop voir, les flics. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, maman ?»«
Je t'avais déjà dit. Ma parole, tu perds la boule. J'ai volé un poulet au presbytère. »
La nouvelle, cette imbécile de Molly, elle s'est mise à en élever.
Miam miam, un bon petit morceau de poulet rôti.
Mais je comprends pas pourquoi on dit poulet.
De mon temps, on élevait des poules, et si on les mangeait, on parlait de volaille. Volaille bouillie ou volaille rôtie.
C'est bon, maman, on s'en fiche.
Qu'est-ce que c'est ?
Comment ça, qu'est-ce que c'est ?
Ce bruit que j'ai entendu, ça venait d'en haut, je crois.
Tu sais quoi, ma grande ? Allons boire un verre au pub avant de manger. Il y aura sûrement Jem Tatchell. Tu lui plais bien, j'ai remarqué. Il a une jolie petite ferme. Va te maquiller un peu.
Ok, maman.
Tracy monta dans sa chambre mansardée, sortit sa boîte à maquillage et s'installa devant le miroir double face de sa coiffeuse. Peu encline à supporter l'épreuve du côté grossissant, elle le tourna côté normal en cherchant le précieux flacon de fond de teint Dior qu'elle avait volé chez Harvey à Merceuster. Introuvable, elle se leva et, depuis le seuil de sa chambre, cria «
Maman, t'aurais pas pris mon fond de teint ?»
Même morte, je voudrais pas qu'on me voie avec ton truc tartiné sur le visage, répondit sa mère.
Tracy se tourna et aperçut le dit fond de teint sur le sol dans l'angle opposé. Il avait dû rouler. Elle fit claquer sa langue impatiemment, alla le ramasser et se rassit devant le miroir. Elle dévissa le bouchon, déposa un peu de maquillage sur sa main et se pencha en avant pour examiner le reflet de son visage. Un voisin dirait plus tard que le hurlement de Tracy était identique au long gémissement des trains qui traversaient le Midwest à toute allure dans les séries américaines. Car l'image que le miroir renvoya à Tracy fut celle d'un démon aux yeux rouges de colère tout droit sorti de l'enfer. Sa mère accourut à l'étage et trouva sa fille tremblante et délirante. Il lui fallut plusieurs minutes pour la calmer et comprendre ce qui s'était passé. Elle s'avança alors vers le miroir et murmura « Est-ce bien vous, Seigneur ?» Seul son propre reflet la dévisageait. « Y'a rien dans ce miroir, » marmonna-t-elle. « Tu vois des trucs, ma parole. Oh, maman, j'ai peur. Tu crois que le Seigneur nous punit ? On n'aurait jamais dû l'invoquer. »
« On l'invoquera demain, comme d'habitude. » « Tu verras, ça va aller, ma grande. Descends avec moi, on va manger ce bon poulet. On ira au pub un autre jour. »
Mais une fois dans la cuisine, elles découvrirent que le poulet s'était volatilisé.
« Espèce d'idiote !» enragea Mrs. Fawkes. « Maudit soit les diables ! On t'a joué un mauvais tour, ma fille ! Tout ça pour nous voler, mon bon ! L'argent ! Vite ! Regarde, il est toujours là !»
Tracy se dirigea vers un buffet d'angle, duquel elle sortit une grosse boîte en fer blanc laqué sur laquelle on pouvait lire farine. Elle l'ouvrit et un diable à ressort en jaillit, lui arrachant un nouveau cri aigu accompagné d'un mouvement de recul. L'argent, quant à lui, avait disparu. Agatha et Charles attendaient le retour de Jock, espérant que sous le coup de la frayeur, les deux sorcières se trahiraient.
« Tu as disparu un moment après le départ de Jock. »
dit Charles d'un ton méfiant.
« Où étais-tu ? » ?»«
Eh bien, puisque tu veux tout savoir, je suis allée chez les sorcières pour placer mon petit magnétophone sous l'extracteur de fumée de la fenêtre de leur cuisine. Dans son rapport, Phil dit qu'elles y passent tout leur temps libre. C'est sûrement là que Jock va essayer de leur faire peur. Enfin, s'il joue franc jeu. Je n'ai pas confiance en lui. Je suis sûre qu'il a fait de la prison. Bref, j'ai chargé Simon d'aller récupérer le dit magnétophone après l'intervention de Jock quand tu étais aux toilettes tout à l'heure.
La sonnette retentit.
C'est soit Jock, soit Simon.
Charles alla ouvrir et revint avec le jeune détective. Celui-ci tendit l'enregistreur à Agatha.
« Vous avez écouté ?» demanda-t-elle.
« Pas eu le temps. »
Agatha le mit en marche. Des cris perçants se firent entendre, tandis que les sorcières découvraient que le poulet et l'argent avaient disparu. Puis il y eut la voix terrifiée de Josie Fawkes.
« C'est lui notre maître. On a dû le contrarier, voilà. On a pourtant fait ce qu'il voulait. On a été prudente quand on a fait croire à la vieille Darby qu'un bel âtre l'attendait dans la forêt près du rocher des prières. »«
Qu'est-ce qu'on va faire ?» gémit Tracy. « Les autres ne sont pas au courant. On est seuls. Ils disaient qu'on était spécial, toi et moi. » « On va aller au rocher des prières ce soir, et à minuit, on va l'invoquer !»
répondit Josie.
« Il saura quoi faire !»
L'instant d'après, un cri et des vociférations.
« Qui êtes-vous, nom de Dieu ?»«
Bonsoir, mesdames !»
la voix de Jock. « Intéressante, cette petite conversation. Alors comme ça, vous avez aidé le meurtrier. Je pense que la police sera ravie de le savoir, et je ne me priverai pas pour le leur dire si vous leur signalez le vol de votre argent. » « Je vous vois, Mrs. Fawkes. Posez donc ce rouleau à pâtisserie. Je suis armée. Je n'aurai aucune difficulté à vous abattre, toutes les deux. Merci pour cette soirée fort amusante. Il n'y a que deux garces écervelées dans votre genre pour invoquer le diable. C'est un homme en chair et en os que vous avez aidé à commettre ces meurtres. Bien le bonsoir !» Un grincement se fit ensuite entendre au moment où Simon détachait le magnétophone.
« Gustave !» dit Charles. « Où êtes-vous allé chercher ce magicien ?»«
Il a déjà travaillé pour nous, » répondit le majordome sur la défensive. « Le diseur de bonne aventure, lors de notre dernière réception, il a eu un succès fou, souvenez-vous. »«
Et vous pensez qu'il va revenir ?»«
Évidemment, il voudra son argent. »«
Je ne vais pas rester là à l'attendre, » s'exclama Agatha. « J'y serai, au rocher des prières à minuit. On verra bien qui se cache derrière le maître des ténèbres. »
Charles réprima un bâillement.
« Ne te complique pas la vie, Agatha. Préviens la police.
Pas question. Je ne vais pas les laisser récolter tout le mérite de mon travail. Gustave, vous restez ici au cas où il aurait le culot de se montrer. Quelqu'un sait-il où se trouve ce rocher des prières ?
Je vais chercher sur Internet, proposa Simon. Il pianota quelques mots sur son iPad et dit « Bingo !» Les protestants s'y rendaient pour y célébrer le culte pendant le règne de Marie la Sanglante.
« Comment on y va ? » ?»«
Il y a une carte, c'est à 1,5 km au nord du village. Il faut suivre un sentier dans le bois sur quelques dizaines de mètres à peine. »«
Bien, je vais enfiler un pantalon et des chaussures plates. »«
Oh, maître des ténèbres, j'arrive !»
« À moins qu'il faille dire « maîtresse », objecta Charles.
« On pourrait tomber sur une femme qui se déguise en homme.
On verra bien. »
Ce ne fut pourtant qu'après minuit qu'ils arrivèrent au rocher des prières. En effet, Charles avait proposé d'utiliser sa voiture, plus spacieuse, mais ils étaient tombés en panne de carburant. Simon avait alors dû revenir à pied chez Agatha, récupérer un bidon d'essence dans son abri de jardin et enfourcher sa moto laissée sur place pour les rejoindre. Entre-temps, Agatha s'était emportée contre Charles, lequel, ne supportant pas d'être traité de radin, était descendu de la voiture et était parti à pied. Agatha et Simon localisèrent le sentier et pénétrèrent dans le bois en direction du rocher des prières. Rien ne trahissait la présence de Josie et Tracy.
« Et voilà, » pesta Agatha. « À cause de Charles, qui n'est pas foutu de faire le plein de sa voiture, on vient de perdre une chance de coincer le meurtrier. »
Bientôt, le sentier tourna en épingle à cheveux, révélant un rocher noir triangulaire qui se détachait sur le ciel éclairé par la lune. Derrière Agatha, la voix de Charles s'éleva dans un murmure.
« Il y a quelque chose sur le rocher !»
Réprimant un cri, elle se tourna vivement et siffla.
« Où étais-tu pour cent ?»« Oh, tais-toi un peu, je ne suis pas à ton service, vieille teigne acariâtre. Tu vas voir ce que c'est ou il faut que je le fasse moi-même. » « J'y vais !»
intervint Simon. Au bout d'un moment, Agatha s'impatienta.
« Tu es sûre d'avoir vu quelque chose ? Une masse sombre, mais dans cette obscurité. C'était peut-être juste une impression, »
répondit Charles. Simon reparut horrifié. « C'est Jock, il est mort. »«
Mort ? Comment ?»«
Aucune idée, » gémit-il. « Sa tête est couverte de sang, il faut appeler la police. »«
Une minute !»
fit Agatha. « Accordons nos violons. Mieux vaut admettre qu'on connaît Jock. C'est quoi son nom de famille ?»«
Bon, Jock le magicien. On dit qu'on l'a engagé pour divertir les gens lors d'une réception chez Charles. Mais pas un mot sur l'idée du fantôme. Sinon le projet sera complètement fichu. Et puis on dira qu'il nous a entendu parler de l'affaire. »
« Et comment justifie-t-on notre présence ici ?» demanda Simon.
« Laissez-moi réfléchir. »
« Je sais. Dans le cadre de notre enquête, vous avez posé des questions à droite à gauche sur les sorcières et on vous a révélé que Josie et sa fille venaient souvent ici. Je vous ai envoyé et une fois sur place, vous m'avez appelé et je vous ai rejoint. »«
Je ferais mieux d'appeler mon avocat, moi, » dit Charles. « Wilkes va s'en donner à cœur joie, je l'entends d'ici. Comment se fait-il, Sir Charles, que vous soyez au rocher des prières le soir où on y découvre un cadavre qui, par la plus incroyable des coïncidences, se trouve être le magicien que vous souhaitiez engager pour une réception ?»«
Attends un peu, » l'arrêta Agatha. « On pourrait s'épargner pas mal d'ennuis si on filait en douce en s'assurant de ne pas laisser de traces. Un coup de fil anonyme, ça pourrait le faire, non ?»«
Ça me va !» approuva Charles. « L'un d'entre vous a-t-il une lampe torche ?»«
Oui, » dit Simon.
« Éclairez donc le sentier, qu'on efface nos empreintes en rebroussant chemin. Vous n'avez touché à rien là-bas, Simon. »«
Non, j'ai des gants. »«
Nous allons passer au presbytère, » poursuivit Charles. « Ça expliquera notre présence au village. »«
À cette heure-ci ?» fit Agatha. « Fausse bonne idée. Oh, que c'est frustrant !» Quand je pense que je me retrouve à devoir démasquer ce soi-disant maître des ténèbres, Josie et Tracy n'ont pas la moindre idée de son identité.
Simon, assurez-vous d'effacer les traces de pneus derrière moi. Rentrez à Mercer à moto, et une fois là-bas, passez-moi un coup de fil d'une cabine.
Haggy, fit Charles, c'est ma voiture, c'est moi qui conduis. Allez, pousse-toi de là. Et puisqu'on en parle, arrête de jouer les chef-tels en permanence.
Quand ils arrivèrent au cottage d'Agatha, ils découvrirent un petit mot de Gustave sur la table de la cuisine. Jock n'était pas repassé. Gustave avait aussi laissé les coordonnées complètes du magicien.
« Je file !» annonça Charles. « Quelle soirée !»«
Charles, tu ne veux pas rester ?»«
Seulement si tu me supplies. »«
Je t'en supplie !»
D'accord. Un baiser de bonne nuit et... Quoi? Tu en fais une tête, hein? Tu viens d'avoir une révélation ou quoi?
Je viens de comprendre la question que je n'ai pas posée.